Bonjour et bienvenue à notre nouvel épisode sur l'évangile de Matthieu. Aujourd'hui, nous nous penchons sur le sermon le plus célèbre et probablement aussi le plus méconnu jamais prononcé, le dit sermon sur la montagne. Souvent, il est perçu comme une conférence sur un pacifisme un peu naïf. Autrefois, je croyais qu'il s'agissait d'une sorte de mode d'emploi du genre « ce que nous devons faire pour aller au ciel ». Mais ce sermon n'est rien de tout ça. Dans ce que l'on appelle communément le serment sur la montagne, Jésus nous dit quelle est la norme de justice de Dieu à laquelle les chrétiens doivent aspirer. Je répète, Jésus nous dit quelle est la norme de justice de Dieu à laquelle les chrétiens doivent aspirer. Dans la vie civile, nous connaissons assez bien nos droits et nos devoirs. Ne pas enfreindre la loi, payer nos impôts, exercer notre droit de vote en tant que citoyenne et citoyen responsable, etc., etc. Mais dans le domaine spirituel, c'est souvent beaucoup moins clair, pour ne pas dire assez chaotique. Si nous demandions aux paroissiens moyens ce que Dieu attend des hommes, nous entendrions sûrement des réponses comme « respecter les 10 commandements »,« aimer son prochain comme soi-même » ou « pécher le moins possible ». Ce manque de clarté est très étonnant, vu que c'est une des questions les plus centrales qu'un chrétien devrait se poser. C'est pourquoi ça vaut l'effort d'examiner de plus près ce serment de Jésus. Celui-ci commence dans le 5e chapitre de Matthieu. Première surprise, le sermon ne commence pas par « tu feras ceci, tu ne feras pas cela », mais par « bienheureux, les », etc., etc. Jésus ne parle ici pas de bonheur dans le sens commun, encore moins de joie, mais bien de béatitude ou de félicité, un mot un peu désuet peut-être. Est-ce que nous savons encore ce que ça veut dire ? La joie est quelque chose d'émotionnel, d'éphémère, d'un peu nébuleux. Par contre, la béatitude ou la félicité désigne un état de salut accompli, mais aussi de complétude. Être béni, vivre dans un état de bonheur profond, être favorisé par Dieu. Oui, je pense que favorisé par Dieu exprime assez bien cette pensée. La béatitude ou félicité dont Jésus parle inclut le cœur aussi bien que l'esprit. Et c'est par cette parole que Jésus commence son sermon. Bienheureux. Bon. Première phrase de Jésus. Et deuxième surprise. Bienheureux sont les pauvres en esprit. Comment ? Pourquoi les pauvres en esprit devraient-ils être bienheureux ? Et Jésus continue en ajoutant « car c'est à eux qu'est le royaume des cieux ». Puis il énumère tous ceux que nous considérons habituellement comme faibles et pas vraiment performants. Jésus renverse complètement notre échelle de valeur. Ce n'est pas étonnant puisqu'il est venu sauver ceux qui sont perdus et pas ceux qui pensent ne pas avoir besoin de Dieu et pouvoir s'en sortir tout seul. Il nomme bienheureux ceux qui pleurent, ceux qui sont doux, ceux qui ont faim et soif de justice, ceux qui font preuve de bonté, ceux qui ont le cœur pur, ceux qui procurent la paix, ceux qui sont persécutés pour la justice. Ils ont la première place dans le cœur de Dieu et dans son royaume. À la fin de cette liste, Jésus mentionne un groupe spécifique de chrétiens, ceux qui sont persécutés à cause de leur foi en lui. Pas ceux qui se font repousser et discréditer à cause de leur comportement ou attitude, mais ceux qui sont haïs et discriminés à cause de lui, à cause de Jésus. Il dit même « réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande au ciel ». Comme nous sommes loin du pseudo-évangile qui prétend que Dieu nous récompensera pour notre bonne conduite, avec une bonne santé, de l'énergie, des promotions, des augmentations de salaire et une grande popularité. Si c'était le cas, tous les martyrs, y compris Paul et Étienne, n'auraient définitivement pas joui de la bénédiction de Dieu. Non, Jésus nous dit que si nous lui faisons confiance de tout notre cœur et que nous le suivons, nous souffrirons. Être chrétien n'est pas une partie de plaisir, de succès et d'argent, c'est aussi une question de douleur. Mais c'est une douleur dans laquelle nous pouvons néanmoins être bien heureux. Je crois en effet qu'il n'y a guère de bonheur plus profond et plus réconfortant que celui de savoir que nous sommes dans la volonté de Dieu, qu'il nous accepte pleinement comme nous sommes et où nous sommes. Quoi qu'il arrive, nous sommes en sécurité et en paix entre ses mains. C'est un sentiment qui dépasse l'entendement, et c'est aussi un avant-goût du bonheur incommensurable que nous connaîtrons un jour au paradis. Cette béatitude vaut mille fois plus que ce que les prédicateurs de la prospérité nous promettent. Et même si la souffrance est parfois grande, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dans la deuxième partie de son sermon, Jésus dit que ses disciples sont le sel de la terre et la lumière du monde. Je vous lis les versets 13, 14, 15 et 16. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée, et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Jésus ne dit pas « vous serez sel, vous serez lumière », mais bien « vous êtes sel, vous êtes lumière ». Quel est le point commun entre le sel et la lumière dans cette parabole? Car il s'agit bien d'une parabole. La raison d'être du sel est d'assaisonner et de conserver les aliments. La raison d'être de la lumière est d'éclairer les ténèbres afin que les hommes puissent trouver leur chemin. Mais le sel ne fonctionne que s'il est dans la nourriture. Et la lumière que si elle est dirigée de manière à éclairer l'obscurité. Si vous mettez la lampe sous un seau, elle sera inutile, vous pouvez aussi bien la débrancher. Jésus nous dit donc que nous aussi, nous ne remplissons notre mission que lorsque nous sommes dans le monde, aussi peu attrayant et inconfortable que cela puisse être. Ce n'est pas par hasard que Jésus en parle juste après avoir dit que les chrétiens convertis devront subir les désavantages et des persécutions. La vie et notre entourage peuvent nous rendre la vie bien difficile. À cela s'ajoutent souvent la maladie, l'abandon, la précarité, l'insécurité ou les tensions familiales. Pour des millions de chrétiens, être disciple signifie renoncer à une carrière, à une certaine richesse et à la sécurité, et c'est même mettre ses propres enfants en danger. Et pourtant, nous accomplissons notre destin sur terre qu'en étant parmi les gens, comme le sel dans la nourriture, et reconnaissable, montrant le chemin à ceux qui nous entourent, comme des projecteurs dans la nuit, dirigés non pas vers nous, mais vers notre Père céleste. Nous voyons que Dieu a placé la barre assez haut. Ensuite, Jésus dit quelque chose qui semble un peu déroutant. Je lis les versets 17 à 20, donc toujours dans le même chapitre 5 de Matthieu. « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En effet, je vous dis en vérité, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, pas une seule lettre ni un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi avant que tout ne soit arrivé. Celui donc qui violera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera aux autres, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. En effet, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Certains pensent que ces paroles signifient que les commandements de l'Ancien Testament nous lient toujours. En disant ça, ils parlent généralement des 10 commandements et laissent de côté les 603 autres lois bibliques de l'Ancien Testament. Ce n'est pas cohérent. Mais surtout, Ça contredit de nombreux autres passages de la Bible, car ça signifierait que l'homme serait sauvé s'il gardait les commandements et que l'homme pourrait donc se sauver lui-même en s'appliquant bien. Or, cela n'est ni biblique ni même imaginable. Écoutez bien. Parce qu'aucun de nous ne peut constamment respecter les commandements, nous avons une dette envers Dieu. Cette dette s'appelle obéissance. Nous devons à Dieu le respect de la loi. Or, en péchant, nous devenons redevables envers lui. Jésus, en respectant toute la loi et en vivant sans péché aucun, a obéi à Dieu à notre place et a payé cette dette envers lui, envers Dieu, à notre place également. Par conséquent, la loi n'a pas été abrogée, mais accomplie. Chaque lettre de la Bible remplit exactement le but pour lequel Dieu l'a ordonné. Si nous laissons Jésus être le Seigneur de nos vies, alors Dieu considère notre foi comme justice. Et c'est la seule et unique justice qui tienne debout devant Dieu. Elle dépasse la justice des scribes et des pharisiens, tout comme Jésus le nous demande. Voici la grâce dont nous avons tous besoin et sans laquelle aucun de nous ne peut subsister. Je nous souhaite à toutes et à tous d'être sel et lumière au cours de la semaine à venir, les yeux fixés sur celui qui est notre justice. Que le Seigneur vous bénisse et j'espère à dans une semaine.